Et en générant amour et compassion dans notre esprit, on récite les prières. Page 12. Commençons par l'offrande du mandala. Et on va le chanter ensemble en tibétain. En fait, même quand on entreprend des pratiques qui appartiennent au plus haut niveau du tantra, on fait ce qu'on appelle les sadhanas, plus haut niveau du tantra ou même kriya tantra, traditionnellement il est dit qu'il est bon de commencer par observer la position corporelle juste, ce qu'on appelle parfois la position vairochana en 7 points, et il y a un point auxiliaire après qui est d'entreprendre la respiration, une méditation sur la respiration. Donc c'est une méditation un petit peu différente, mais le but de cette méditation est exactement le même. Donc c'est de se poser, de rendre l'esprit neutre pour pouvoir après développer de belles choses. Donc cette méditation sur le souffle qu'on fait au début de chaque session, on peut le faire au début de chaque session de méditation sur le lamrim ou même quand on fait des sadhanas ou certains rituels pour amener l'esprit et le placer dans une attitude plus favorable à la pratique. Est-ce que vous avez des questions qui ont surgi par rapport au groupe de discussion ou par rapport aux méditations qu'on a faites?
Ben oui, par rapport à la méditation sur les pensées, donc il n'y avait plus de pensées, ben, il n'y en avait pas apparemment.
C'est bien.
Ah, il doit y avoir une anomalie, je pense.
Non, parfois, surtout que le comme on a commencé la session par une méditation sur le souffle, qu'après notre esprit était plutôt toujours canalisé sur les attitudes vertueuses, etc. L'esprit il était plutôt déjà, on l'avait amené dans une certaine atmosphère. Donc peut-être après qu'on a fait cette méditation, il n'y avait pas forcément trop de pensées qui apparaissaient parce qu'il était suffisamment déjà un peu apaisé. Parfois, il faut observer, il y a peut-être une pensée prédominante, il faut voir, est-ce que ce n'est pas une certaine torpeur, obscurité de l'esprit. Donc là, il faut aussi apprendre à reconnaître ça. Mais si l'esprit était plutôt calme, c'est un bon signe, c'est que la méditation qui avait été effectuée avant, et puis tout ce dont on parlait, avait un effet pacificateur sur l'esprit, que donc il n'y avait pas forcément trop de perturbations mentales qui étaient présentes. L'esprit était plutôt neutre puisqu'il n'y avait pas non plus de pensées positives, donc c'est bien. Après, c'est continuer puis à essayer de reconnaître l'aspect de clarté de l'esprit, luminosité qui permet au phénomène d'apparaître, quel qu'il soit. D'accord. Et puis après, donc, de se baigner complètement dans cette luminosité. Et ça, après, donc, c'est le premier pas important de la méditation du Mahamudra, reconnaître complètement cette luminosité, cet espace illimité de l'esprit. Et après, on va méditer donc, sur la nature ultime de cet esprit, son vide d'existence intrinsèque ou propre. D'accord. Donc, on unifie à ce moment-là la sagesse avec cette nature lumineuse de l'esprit.
Donc pour la luminosité de l'esprit, dans un premier temps, on fait quoi ? On visualise de la lumière ? On ne fait rien ?
Souvent dans certains manuels, ils disent qu'on peut essayer d'imaginer le ciel pour nous donner un petit peu un avant-goût. Mais après, quand vraiment on essaie de s'appliquer à cette méditation, il faut apprendre à reconnaître la réelle luminosité de notre esprit et pas l'imaginer, pas construire. Parce qu'en construisant, en fait, qu'est-ce qu'on fait ? On crée une pensée. Donc il faut arriver justement à voir le fonctionnement de notre esprit, voir le fonctionnement, l'apparition de ses pensées, et voir qu'il y a des espaces entre eux, et que ces espaces en fait ils ont une certaine luminosité, et plus on va arriver à se concentrer dessus, plus on va développer donc cette aptitude de l'esprit à se concentrer, plus cette luminosité va se renforcer, plus les espaces entre les pensées vont s'allonger, et plus on va donc demeurer dans cet état, jusqu'à ce que ça devienne un état plus complètement stable et plus permanent dans le sens stabilité sans avoir de distraction. Autre question ? Tout était clair.
Le
Nyume. Alors le Nyume, c'est une pratique qui est en relation avec ce qu'on appelle le Chenrezig, la forme de Chenrezig, ou le Bouddha de la compassion. Le Bouddha de la compassion, sous sa forme, a 1000 bras et 11 têtes, je crois bien. C'est une pratique qui appartient donc au Kriya Tantra, dans les 4 classes du Tantra, la classe la plus inférieure, où on met l'emphase sur des activités extérieures, par exemple de propreté, etc. Et c'est aussi le Kriya Tantra, c'est la classe de Tantra où on utilise le niveau de plaisir, par exemple, qu'il y a à regarder, dans les textes, ils disent, par exemple, en parlant des hommes, ils ont regardé une jolie femme, donc on génère un certain état d'esprit, de joie, d'accord, et on utilise ce degré de joie pour méditer sur la sagesse qui réalise la vacuité. Donc ça, c'est un peu une des caractéristiques du Kriya Tantra. Le Nyune, après, donc, c'est une pratique assez intense, qui s'effectue sur 2 jours pleins avec, si on n'en fait qu'un seul, le matin du 3e jour. C'est une pratique qui comporte la prise des préceptes Mahayana, et entre autres, ça implique qu'on va avoir le premier jour qu'un seul repas, généralement avant midi, ce qui ne contient pas de nourriture noire, c'est-à-dire ni viande, ni alcool, ni œufs, ni oignons, ni ail, etc. Après on va pouvoir boire le reste de la journée mais rien manger d'autre, d'accord. Le lendemain par contre on ne mange pas, on ne boit pas, on ne parle pas non plus, on essaie de tenir complètement un silence. Et dans cette petite retraite de 2 jours, en fait on effectue 3 sessions de méditation par jour, sessions de méditation qui contiennent beaucoup de récitations de louanges, par exemple du Bouddha Chenrezig, où on effectue des prières, etc. Mais aussi après des méditations où on va se visualiser soi-même sous la forme du Bouddha Chenrezig. Et quand on étudie vraiment les commentaires, en fait, après, on doit effectuer certains yoga et certaines méditations intérieures qui sont assez difficiles. Et puis on visualise aussi Chenrezig dans l'espace en face de nous, on lui offre des prières, etc. Et donc cette retraite s'effectue sur 2 jours pleins, et le matin du 3e jour, on peut aussi les accumuler, les faire s'enchaîner. Et c'est une pratique qui a un très grand effet de purification, un grand effet aussi d'accumulation de mérite, et qui est fait pour développer plus possible un maximum de compassion, en quelques mots. Mais après, Charles, il en dira bien plus. Donc après, dans les discussions que vous avez eues, c'était tout était, vous étiez tous d'accord, vous n'aviez pas de doute, pas de divergence. Par exemple, la colère est-elle nécessaire? Il n'y a pas eu de doute du genre, est-ce qu'il y a une différence entre la colère et le courroux? Non? Par exemple, ou je sais pas moi, l'aversion, parce qu'on ne veut pas faire quelque chose, est-ce que ça veut nécessairement dire que je vais avoir l'aversion? Est-ce que j'ai l'aversion pour le samsara, par exemple, si je veux développer le renoncement? Non? Pourquoi? Silence de mort. Merci d'avoir posé la question.
Question suivante.
Question suivante.
Ça me permet d'expérimenter, donc je parle de la version. Je pense qu'il me permet de voir où j'en suis. Je pense qu'en étant en état de ça va, que je peux me rendre compte, même si je veux en sortir, en fait, c'est grâce à ça que je me rends compte où j'en suis. Donc je peux faire la version. Quelque chose qui me permet d'évoluer aussi, de me repositionner.
Donc quelle est la différence, par exemple, entre une certaine, entre guillemets, pas le facteur mental perturbateur, aversion, rejet, désir de sortir du samsara, et l'aversion telle qu'elle est décrite dans les perturbations mentales? Parce qu'il y a quelque chose... L'aversion, perturbation mentale, c'est quelque chose à abandonner, non? Le souhait de sortir du samsara, le rejet du samsara, c'est pas quelque chose à abandonner. Puisque c'est ce qu'on appelle le renoncement, on va essayer de justement cultiver ça. Donc, quelle est la différence entre les deux?
Le reste.
Et même dans l'état mental, il doit y avoir une différence.
Ça crée de la négativité, donc ça crée une motivation différente.
Positive. Et comment on crée de la négativité dans le cas de l'aversion, pas dans l'autre?
Avec la colère.
Comment on crée la négativité?
Parce que notre motivation est différente.
Oui, on peut dire ça. En fait, pour bien essayer de comparer les choses, il y a un truc qui est tout bête quand on étudie en philosophie, on fait souvent, ou dans le débat, c'est on prend les définitions un petit peu et on les compare. Donc l'aversion, c'est quoi? C'est un facteur mental perturbateur qui observe un objet déplaisant, qui exagère les fautes de l'objet et veut nuire ou se débarrasser complètement de l'objet. D'accord? Par exemple, samsara, on peut voir que c'est la nature de la souffrance et on va absolument rien exagérer. On va reconnaître le samsara pour ce qu'il est et se dire, c'est un état qui est absolument pas souhaitable. Ok, mais on va pas vouloir nuire, proprement parler, au samsara, ou on n'exagère pas les fautes du samsara. C'est la réalité. Ce qui est généré à partir de l'ignorance entraîne la souffrance, c'est la réalité. Et de ne plus vouloir ça, ce n'est pas de l'aversion, car on ne surimpose rien de négatif par rapport à ça. Okay? C'est comme désir, le désir d'atteindre l'illumination ou le désir attachement sont deux choses complètement différentes. Okay, donc il faut arriver à avoir l'esprit bien clair là-dessus, comme ça on va arriver à bien reconnaître ça en nous et voir ce qui doit être cultivé avec précision, par exemple le désir, le souhait d'atteindre l'illumination, la libération, d'accord, et d'un autre côté aussi le souhait donc automatiquement d'abandonner les perturbations mentales. Aussi, s'il n'y a pas d'autres questions, j'aimerais revenir un petit peu sur un sujet qu'on avait commencé à aborder hier. sur l'absorption de breuvages alcoolisés pour qu'il n'y ait absolument pas de malentendus. Donc au niveau des sutras, le Bouddha, il a conseillé de ne pas boire de l'alcool. Donc après, il en a même fait une règle pour la communauté monastique. Les moines et les nonnes, dans leur vœu d'ordination, ne peuvent pas boire d'alcool. Ensuite, donc hier, je disais, en fait, tout dépend de l'attitude mentale avec laquelle on accomplit l'action. Ouais. Au niveau des sutras, le Bouddha, il a prescrit, prohibé l'alcool, parce qu'en fait, l'alcool altérait nos capacités mentales et très souvent nous poussait à commettre des actions négatives. L'exemple qui est donné généralement dans les enseignements, c'est qu'il y avait un moine, alors un jour il était invité par mécène, la femme d'un mécène, et donc il s'est rendu dans la maison de cette femme. La femme a fermé la porte à clé et elle a dit « Bon, je ne te laisserai partir que si tu commets un de ces trois actes. Boire de l'alcool, tuer une chèvre ou faire l'amour avec moi. » Alors là, le moine, il s'est dit « Ouh là là, problème. J'ai un vœu racine de ne pas avoir de relations sexuelles. Hors de question que je fasse l'amour avec elle. J'ai un vœu secondaire qui est de ne pas tuer. Et tuer un animal, ça provoque une grande souffrance. Donc, je ne vais pas tuer la chèvre. Prendre le moindre mal, allez, je vais boire. » Alors il boit, problème, il est complètement pété. Donc il a tué la chèvre et puis il a une relation avec la femme. Donc voilà pourquoi en fait l'alcool est un petit peu prohibé. L'alcool est prohibé au niveau plutôt prohibé au niveau des sutras, ainsi que dans les trois classes inférieures des tantras. D'accord, le Kriya Tantra, Acharya Tantra et Yoga Tantra. En application, donc les laïcs n'ont pas forcément le vœu de ne pas boire d'alcool. Donc les maîtres, ce qu'ils conseillent, c'est si les laïcs n'ont pas ce vœu, ils peuvent le prendre, mais s'ils n'ont pas ce vœu, de boire avec modération. Donc de ne jamais se retrouver dans un état d'ébriété avancée. Après, je disais que on peut, d'une manière générale, quand on agit, il est bon de toujours essayer d'agir avec sagesse, c'est-à-dire de développer la sagesse qui réalise la nature ultime des phénomènes, la vacuité, d'accord ? Et quoi qu'on fasse, qu'on boive du thé, par exemple, mon thé ici, je dois essayer donc de faire cette action en développant la sagesse. Okay ? Dans le bouddhisme tibétain, il y a un aspect très important qui est la pratique du tantra, et la plus haute classe du tantra. Et dans ces enseignements, il est parfois prescrit, non pas prohibé, mais prescrit, par exemple, d'utiliser certaines substances comme l'alcool ou la viande pour accroître certaines énergies, pour pouvoir méditer là-dessus. Donc c'est pour ça que je disais, après tout dépend de la motivation et que vous allez très certainement être confronté parfois à être dans des lieux où il y aura peut-être des individus qui vont boire et ce ne sera pas forcément une faute pour eux, puisque peut-être qu'ils l'utiliseront de cette manière. Ou peut-être tout simplement vous allez participer à ce qu'on appelle la cérémonie du Tsog, vous avez peut-être déjà assisté, ou ce qu'on appelle la Guru Puja, ou la Machepa, où à un moment il y a justement un bol symbolique d'alcool et un peu de viande qui circule, et justement c'est donc on rentre complètement dans le domaine de cette pratique du plus haut niveau de tantra où on utilise ces substances pour accroître certaines énergies pour pouvoir méditer avec un certain type d'esprit sur la sagesse. Donc après peut-être que là on va rester au niveau des sutras, d'accord. Donc d'une manière générale, le Bouddha a plutôt conseillé de ne pas boire d'alcool parce que ça peut altérer nos capacités et nos aptitudes mentales. Et en pratique, après, les maîtres conseillent de dire, bon, ben, il n'y a pas nécessité absolue de prendre le vœu de ne pas boire d'alcool, d'accord. Donc, si vous ne l'avez pas, ben, il faut qu'on essaye de ne pas se retrouver dans un état d'ébriété avancée. Donc, par exemple, on se retrouve avec notre famille, parce que surtout dans notre culture occidentale, souvent, dans le repas, il peut y avoir de l'alcool. Donc, on peut boire un verre de vin, etc., ou une bière, comme ça, avec nos amis. Moi, après, le conseil que je donne, c'est d'essayer de ne pas développer d'attachement envers ces boissons et essayer d'avoir l'attitude intelligente qui est d'essayer de développer de la sagesse, d'accord ? La sagesse qui comprend la vacuité des phénomènes. Et en fait, il faut apprendre à faire ça un petit peu dans chaque action de notre vie. Et surtout que c'est un bon entraînement peut-être plus tard pour quand on commencera à essayer de pratiquer les niveaux de tantra, donc les plus élevés. Et donc on peut faire ça aussi avec du thé. Hein. Vous prenez du thé, vous êtes content. Au lieu juste de rechercher d'autres plaisirs, vous demeurez dans cet état tranquille de bien-être et vous méditez sur la vacuité. D'accord ? On mange une glace, pareil, on peut faire la même chose. Tout simplement, on s'allonge, on se détend, on peut faire la même chose. On génère un état d'esprit agréable et on utilise cet état d'esprit pour méditer. Et plus l'esprit est joyeux, flexible, détendu, plus on va arriver à méditer de manière puissante et efficace. Bon, je commence déjà à parler beaucoup, donc je vais boire un peu. Hein. Donc, ce matin, on en était resté au potentiel de Bouddha. On avait dit que le potentiel de Bouddha, c'est un phénomène qui est apte à être transformé en un corps de Bouddha. Et on avait vu les quatre corps. On avait parlé des quatre corps. Souvent, on le divise en deux. Le lignage qui demeure ou demeurant naturellement et le lignage de développement. Le lignage de développement, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement tous les états d'esprit positifs. D'accord ? L'amour, la compassion, le respect, etc. On pourrait regarder la liste des 11 facteurs, par exemple, entre autres, mentaux positifs. Donc ça, cet aspect, si on le développe de manière illimitée, on obtiendra l'esprit omniscient du Bouddha. Si on développe tous les facteurs mentaux positifs, tels que la sagesse, etc., on obtient le corps donc, du Bouddha qui s'appelle Dharmakaya, l'esprit omniscient. Le Natuliyobali lineage, le lignage qui demeurant de manière naturelle, lui, c'est la vacuité de notre esprit. D'accord ? Quand notre esprit aura été complètement purifié, qu'il aura développé toutes les qualités, la vacuité de cet esprit sera quoi ? Sera le corps du Bouddha qu'on avait appelé le Svabhavakaya. Ou le corps de vérité de nature. Ouais, je ne sais plus comment on l'avait appelé. Non, non, ça c'était le dernier. Après, dans votre corps de nature, oui, celui-là. Et déjà, bon, c'est un gros bouquin, donc c'est un peu difficile à trouver, mais je pense que si on regarde dans votre gros bouquin au niveau de du chapitre sur le refuge, il est présenté un petit peu les différents aspects du Bouddha. Donc ces noms-là, on pourra les retrouver. Qualité du Bouddha. Donc déjà, je vous disais qu'il n'y avait pas forcément grand chose sur le potentiel du Bouddha, mais dans votre livre, page 150, il y a un petit chapitre sur le potentiel du Bouddha, justement. Ensuite, page 151, il y a les quatre corps du Bouddha. Le corps de nature, voilà. Donc ça s'appelle ça le corps de nature. Ensuite, le corps de vérité et de sagesse, le corps de jouissance et le corps d'émanation. Donc, quand vous êtes à la maison, si vous voulez approfondir un petit peu votre compréhension du potentiel du Bouddha, des quatre corps, vous pouvez lire page 150, 151, et ça finit à 154. D'accord ? Donc, chaque individu, on a un esprit. Et cet esprit, il est vide d'existence propre. Donc, il y a la vacuité de cet esprit. La vacuité de l'esprit de chaque individu est un des aspects du potentiel de Bouddha. Ensuite, chaque individu, à un degré plus ou moins élevé, on a des états d'esprit vertueux. Et ça, c'est donc l'autre aspect du Bouddha potentiel. Quand on a développé de manière parfaite ces qualités vertueuses, on obtient donc le corps de sagesse, Bouddha. La vacuité de ce corps de sagesse, de cet esprit omniscient, c'est ce qu'on appelle le corps de nature. D'accord ? Et ce sont les deux aspects du potentiel de Bouddha qui sont pleinement développés. Ça vous parle un peu ou c'est du charabia total ?
Hein? C'est un peu loin.
Ça dépend, parce que le potentiel de Bouddha, il est pas loin, il est juste ici, présent maintenant, tout de suite. On l'a tous. On a tous un esprit, d'accord ? Ouais. Cet esprit, sa vérité, ce qu'il est au niveau ultime, c'est justement d'exister en complète interdépendance. Donc si on transforme ça de manière négative, on dit il est vide d'existence propre. Ce qu'on appelle la vacuité de l'esprit. Tu as un esprit, il y a la vacuité de ton esprit. Ça, c'est le potentiel de Bouddha, un des aspects. L'autre aspect, c'est quoi ? C'est les qualités vertueuses de ton esprit. Ça aussi, il y en a déjà maintenant. Après, c'est juste développer ces qualités de manière infinie et tu obtiendras le corps du Bouddha. Donc, on a le potentiel, ça veut dire que ce qui est nécessaire pour atteindre la bouddhéité, on l'a déjà en nous. Il faut juste le développer. Tout simple, non ? Parce qu'on pourrait douter, se dire, mais je ne peux pas atteindre l'état de Bouddha. C'est pas vrai, on a le potentiel. Après, il faut juste travailler. D'accord ? Alors ensuite, on va parler de la précieuse renaissance humaine. Alors là, vous avez un grand chapitre qui est consacré à ça, page 97, dans votre livre. Et en fait, si on y regarde un petit peu plus près, précieuse renaissance humaine, toutes les personnes qui sont présentes ici, on a cette précieuse renaissance humaine. Il va falloir essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que cette précieuse renaissance humaine. Ah, pardon, je parle, comment on dit en Suisse ? 97. 97. 97. Ah ben, j'ai tourné la page après. Le début il commence page 97. La précieuse renaissance humaine, c'est une renaissance humaine qui possède 18 attributs, 8 libertés et ce qu'on appelle 10 richesses, je crois. Comment ils appellent ça ? Non, les 8 libertés et les 10 attributs. D'accord ? On va passer rapidement en revue. D'accord ? Pour s'assurer qu'effectivement, on possède ces 8 libertés, ces 10 attributs. Le premier, vous voyez, est marqué « Ne pas être né dans les enfers ». Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est né dans les enfers ici ? Non, puisqu'on est né, on a une renaissance en tant qu'être humain. Si on était né dans les enfers, où est-ce qu'il y aurait le problème ? Eh bien, le problème, c'est qu'on expérimenterait une souffrance tellement intense qu'on ne pourrait rien faire d'autre qu'expérimenter cette souffrance. D'accord ? On est libre de ça. Première chose. Ensuite, on est né, on est libre d'être né comme esprit avide. Quel serait le problème si on était né comme esprit avide ? On aurait une telle une telle avidité, oui, que en fait, on ne pourrait pas se préoccuper, encore une fois, de vouloir transformer notre esprit, etc. On serait complètement submergé par cette avidité. D'accord ? Aussi, dans ces mondes-là, il y a une très très grande souffrance. Okay ? Après, si vous êtes intéressé, vous voulez un petit peu prendre de l'avance, et un petit peu regarder des aspects qui seront traités plus tard dans d'autres modules, vous pouvez regarder sur les souffrances des mondes inférieurs, par exemple les souffrances des enfers ou des esprits avides, et voir que les souffrances effectivement sont abominables et que là encore ça devient un obstacle énorme à la pratique. Ensuite, ne pas être né comme animal. Quand on est animal, le plus grand obstacle à la pratique qu'on rencontre dans ce monde-là, c'est la stupidité, l'ignorance. D'accord ? Donc, comme je disais hier, on peut demander à l'une de venir ici, si on discute avec elle de tout ça, elle ne va pas en tirer grand bénéfice. Okay ? Donc si on prenait une telle renaissance animale, eh bien, on se retrouverait dans le cas et les conditions, la situation d'une lune. Donc vous imaginez, vous avez maintenant cette renaissance humaine, d'accord, avec toutes les facultés, les capacités qu'on a. Maintenant, vous imaginez reprendre renaissance en tant que lune. Vous voyez le problème qu'on aurait ou pas? On aura du mal à faire ce qu'on est en train de faire. Non? Ben, on peut voir que lune, elle peut pas comprendre. Elle ne peut pas lire, par exemple, elle ne peut pas étudier tout ça, et qu'on aura beau essayer de lui répéter tout ce qu'on est en train de dire, elle ne va pas avoir, de par sa condition animale, elle va être limitée, elle ne va pas pouvoir appréhender la signification de tout ça. D'accord ? Aussi, si on regarde les animaux domestiques, ils sont plutôt bien logés, mais les animaux sauvages, bien souvent, pour leur survie, c'est une perpétuelle accumulation d'actions négatives. De tuer d'autres animaux, d'autres insectes. J'ai regardé des films sur la vie marine. Il n'y en a pas un, c'est incroyable, hein, il n'y en a pas un qui mange pas l'autre. Même les petits se mettent à plusieurs pour manger un gros.
Il y en a des qui mangent les végétaux.
Ben, dans ces documents, c'était des documents sur la BBC.
Mais comment ça se fait qu'on est si émerveillé quand on les regarde?
Parce que c'est...
Ils sont dans des mondes inférieurs, qu'on est là, on les voit.
Ben ça, c'est un peu une certaine forme d'ignorance. Ouais. On pense que c'est une très grande beauté, alors que c'est le samsara. Non, c'est qu'on prend pas bien, qu'on réalise pas bien la situation dans laquelle ils se trouvent. Mmh. On peut être en état de... d'émerveillement aussi devant je sais pas, un lion, un guépard, d'un point de vue juste, si on regarde d'un point de vue un petit peu avec la sagesse du dharma, d'accord, le lion quand il égorge une proie, même si c'est pour sa survie, c'est une création d'un karma extrêmement lourd qui entraînera donc des résultats pour lui-même absolument pas souhaitables. Mais de par sa condition animale, de par les instincts qu'il a, il n'en a absolument pas conscience de tout ça. Et il continue. D'accord ? Même, il y a des êtres qui sont un peu plus avantagés, comme des êtres humains, mais ils n'ont pas une précieuse renaissance humaine, parce qu'ils n'ont absolument pas conscience de ça, et ils vont accomplir tous ces actes aussi.
Oui, mais il ne pourra jamais changer, parce que le lion, il ne va jamais changer, il doit toujours tuer pour se nourrir. Donc il ne va jamais changer sa condition.
Il va changer sa condition à sa mort, et en dépendance d'un karma et de ses perturbations mentales, il va prendre une autre naissance. Mais il est dit que quand on commence à prendre naissance dans les mondes inférieurs, animaux, esprits avides, les enfers, c'est pas facile d'en sortir. Parce que, effectivement, par exemple, en tant que lion, tout au long de notre vie de lion, on massacre donc des antilopes et autres animaux. Qui sont des karmas extrêmement négatifs. Et on va voir justement que dans la méditation sur la précieuse renaissance humaine, c'est prendre conscience de l'extrême joyau qu'on possède, l'opportunité magnifique qu'on a, et ce serait donc une aberration que de la gâcher et de ne pas l'utiliser par paresse ou stupidité ou autre.
Parce que nous avons tous tester, je ne vais pas m'empêcher, les mondes inférieurs. Parce que dans la vie de Bouddha, il parle de ces vides en tant qu'animal, etc. C'est du roman ou c'est...
Dans le bouddhisme, on dit qu'on a tous
expérimenté
tous les niveaux de type de renaissance dans le samsara, sans exception.
On vient du monde des enfers.
On est passé dans les enfers, chez les animaux, chez les dieux, dans les mondes d'absorption, de concentration extrêmement élevée. Le bouddhisme dit depuis des temps sans commencement. D'accord, on prend renaissance dans ces six classes de monde encore et encore, et on expérimente les différents types de souffrances encore et encore et encore et encore et encore. Et là, la méditation.
Parce qu'il y en a qui ont commencé dans le monde des mondes.
Il n'y a pas de commencement.
Mais c'est dommage. Parce que t'as dit, si on est allé dans les mondes des dieux, on ne se souvient pas. C'est
non.
Une expérience, car ça n'a pas de sens.
C'est juste la nature de. Par exemple, tu étais dans le ventre de ta mère, mais à cause du traumatisme de l'accouchement, tu t'en rappelles plus.
Oui, mais ça, ça va. Hyper important.
Non, mais le problème, c'est qu'après, il y a la réalité. Il y a des par exemple, au moment de la mort, etc., il y a des traumas. Il y a les consciences grossières se réabsorbent, etc., et qui fait que, de par notre ignorance, notre confusion, etc., on ne va pas se rappeler tout un ensemble de choses. Et après, c'est juste la réalité, c'est comme ça. Donc effectivement, si on était capable d'avoir une perception directe des enfers, de voir qu'on avait été dans les enfers, etc., de voir vraiment la nature véritable du samsara, eh bien, on ne perdrait pas une minute, pas une seconde. Le problème, c'est que notre réalité, ce n'est pas celle-là. On est limité, etc. Donc, il faut essayer de prendre conscience de ça, et de prendre conscience de ça en réfléchissant, en méditant, et de faire de plus en plus un avec cette compréhension pour que vraiment ça devienne notre nature, que de comprendre il y a le samsara, je ne veux pas le samsara, je veux me libérer, je veux développer la sagesse. Non seulement je veux me libérer, mais je veux aussi développer toutes les qualités pour pouvoir aider les autres à s'en sortir. Donc après, là, il y avait un peu un holà, dire oula, mais c'est déprimant. Cette méditation, elle est faite justement pour générer un état d'esprit extrêmement joyeux. Parce que là, on est en train de voir qu'il y a des situations qui sont extrêmement difficiles. Nous sommes libres de cette situation et nous avons une opportunité extraordinaire de nous libérer ou de créer les causes pour nous libérer à tout jamais de cette souffrance et des causes de la souffrance. Okay ? Donc, après, on va voir que l'état d'esprit qu'on essaye de générer quand on médite sur cette précieuse renaissance humaine, c'est de générer une très grande joie, une très grande énergie qui va nous pousser à utiliser cette opportunité qui nous est donnée. D'accord ? Donc on est libre des enfers, on est libre d'avoir pris renaissance comme esprit avide, comme animal, et aussi il est dit, on est libre d'être né comme Dieu à longue vie. Donc il y a des renaissances dans le monde des dieux, de la forme, même du sans-forme, qui sont extrêmement plaisantes. Mais le problème, c'est par exemple, il y en a une, on a une discrimination, on comprend ce qui se passe au moment où on est et au moment où on mord. Au milieu, c'est un blanc complet, d'accord. Il y a d'autres renaissances, où le monde des dieux, où on éprouve énormément de sensations plaisantes, d'accord, on jouit de tous les plaisirs des sens. Le problème, c'est qu'on est tellement absorbé dans ça que les Italiens, ils ont transformé l'esprit. Qui s'est frega. On n'en a rien à faire, d'accord. Donc on perd juste tout notre temps à expérimenter ces plaisirs. Et puis, cette renaissance, elle finit, on retombe et rebelote. D'accord. On est libre de cette telle renaissance. Donc là déjà, vous ne bronchez pas, mais là je vous parle de trucs genre renaissance animale, on peut comprendre. Mais se dire que nous on peut renaître en tant qu'animal, renaissance dans les êtres des enfers, attendez. Comme être esprit avide, comme Dieu. Il va falloir en fait que vous réfléchissiez, est-ce que oui ou non ces mondes-là, ils existent. D'accord ? Donc, on n'a pas vraiment le temps de le faire là pendant ce week-end, mais on pourra essayer d'y réfléchir ensemble plus tard. Mais déjà, je vous ai donné des éléments de réponse. Rappelez, je vous ai posé la question qui tue en vous demandant quel est le principe créateur. Qu'est-ce qui fait qu'on prend, par exemple, cette renaissance en tant qu'être humain? Vous en tant que femme, nous deux en tant qu'hommes. Mais renaissance, par exemple, dans un pays européen, d'accord, dans telle famille, etc., qui fait qu'on rencontre telle personne et pas telle personne, qu'on se met à faire telle chose et pas telle autre chose. Et si plus on va y réfléchir, plus c'est quelque chose de en anglais on dit mind-blowing, de, vraiment c'est, il suffirait que par exemple le matin vous vous leviez 2 secondes plus tard pour que ça change complètement toute votre journée, d'accord. Quelle est donc ces forces qui fait qu'on est à vivre tout ça? Donc essayez de donner des éléments de réponse. Le bouddhisme a dit en fait, oui, et le karma il est créé par quoi? Par l'esprit, d'accord, les facteurs mentaux, etc., et l'esprit. Et c'est donc l'esprit qui gouverne un petit peu tout ça. Comment? Donc, en générant des pensées, différents facteurs mentaux, positifs ou négatifs, on agit, et donc, ça assemble un petit peu, on a dit, toutes les particules, ça crée le monde extérieur, ça crée, ça nous propulse dans ce corps, etc. Ok? Aussi, après, c'est quand on réfléchit en une vie, ce principe du karma, etc., il n'y a pas la place. D'accord? Parce que, en fait, un bébé est né, mais toutes les causes, elles ont déjà été créées. Donc, l'individu en tant que bébé, là, maintenant, il ne peut pas créer toutes ces causes. Les causes, elles doivent précéder. D'où, après, l'implication dans le bouddhisme de dire, il y a des renaissances passées. Moi, j'étais, souvent je prends cet exemple, j'avais été vraiment choqué, je sais pas, j'avais une vingtaine d'années, quand, je ne me rappelle plus exactement quand c'était, la guerre du Rwanda. Un peu plus tard quand même.
Non, non.
Un peu plus tard, parce que là, là si j'avais 20 ans, là j'ai vieilli d'un seul coup, dur. Bon, de toutes les façons, peu importe la date, mais en France, 90, en France, donc il y avait des informations, d'accord, et ils montraient des images fortes, genre les petits Rwandais de 2 ans, 4 ans, avec les coups de machette sur la tête, qui n'étaient pas encore morts, mais bon, moi je regardais ça, mais je disais, mais ces petits êtres, ils sont complètement purs, d'accord, ils ont à expérimenter une telle situation, mais comment c'est possible? D'accord. Et c'est un individu qui expérimente cette situation. Il est logique que ce soit l'individu lui-même qui ait créé les causes pour se retrouver dans une telle situation. Si on regarde ce petit bonhomme, dans cette vie, c'est pas possible qu'il ait créé les causes pour ça. Il n'a rien demandé. Et à ce moment-là, on peut commencer à se dire, ah oui, effectivement, ce serait une possibilité logique que d'accepter donc des vies passées, d'accord, surtout si on associe ça avec donc la compréhension de l'esprit qui est une continuité de moments de conscience, et encore une fois en comprenant que un moment de conscience dépend, est causé par un moment de conscience précédent, et comme ça jusqu'à l'infini, d'accord. Et après donc quand on introduit vraiment cette notion de karma, les choses deviennent relativement logiques, sensées. D'accord, se dire, je vis cette situation difficile, pourquoi? Parce que tout simplement dans le passé, j'ai commis des actions, d'accord, qui ont été de la nature négative, qui ont fait souffrir autrui, et en quelque sorte, je ne récolte que ce que je sème. Ou qui sème le vent récolte la tempête. D'accord? Donc ensuite, après, on peut continuer de fil en aiguille et se dire, mais les enfers. La dernière fois, on avait parlé d'Adolf Hitler, non, comme exemple. Une personne qui est responsable, on peut dire de manière indirecte, de 50 millions, plus de 50 millions de personnes. D'une manière beaucoup plus directe, il a ordonné la torture de plusieurs millions de personnes, torture qui a abouti par la mort. Il est en train de semer tout toutes ces graines. D'accord ? Vous pensez qu'un être humain, il est capable d'expérimenter la souffrance qu'il a fait subir à ces 20 millions de personnes en tant qu'être humain ? Un être humain ?
Mais là, c'est aussi celui-là qui sont tués. C'est aussi à cause de leur karma.
Hmm? Oui. Mais ça, c'est le résultat.
Ça, c'est le résultat.
C'est le résultat. Oui. Mais là, on s'occupe de la cause. Oui. On s'occupe d'Adolf Hitler et des causes qu'il est en train de créer.
Est-ce que lui, il peut, dans son bardo, comme il a récemment, est-ce qu'il peut reconnaître ce qu'il a fait et quand même purifier ou est-ce que s'il a des gens qui font des prières quand même comme l'Amazon a dit si elle peut faire aussi pour celui-là justement
Saddam Hussein
parce que c'est bien sûr c'est leur esprit qui a fait qu'ils ont tué tout ça. Mais dans une ignorance, quelque part aussi. On peut quand même prier pour les gens
C'est bon de prier. C'est même très très bien de prier.
Oui, et essayer de les guider dans une vie un petit peu meilleure.
Oui, c'est une très belle chose à faire. Mais après, il y a la réalité du samsara qui est que, par exemple, un être comme Adolf Hitler, il a créé quelque chose d'excessivement lourd. Et que ce qu'il a créé sont comme des murs qui font que les prières qu'on va faire vont avoir très très peu d'effet. Et que, par exemple, quand quelqu'un meurt, quel est le fonctionnement d'effectuer des prières pour lui ? C'est, on va envoyer une énergie positive qui va avoir tendance à stimuler les aspects positifs de la personne. D'accord ? Mais Adolf Hitler, après une vie comme la sienne, il a généré tellement de négativité qu'ils ont une telle force, ces négativités, que l'énergie positive qu'on va envoyer, elle ne va pas avoir la possibilité d'aller réveiller ces aspects positifs qu'il a en lui, parce qu'il en a un petit peu quand même. Pourquoi ? Parce que ces aspects négatifs sont beaucoup, beaucoup trop forts.
Mais est-ce que, est-ce que ce n'est pas un jugement ? Est-ce qu'on ne risque pas de juger quelqu'un ? Parce que ça, c'est de dire, bien sûr, on sait qu'il a tué, mais sans juger, j'ai dit, moi j'ai un petit peu la peine pour dire, c'est quand même un jugement, même s'il a tué beaucoup, et je suis tout à fait d'accord avec toute l'histoire et tout ça. Mais on parle de quelqu'un qui a fait quelque chose dans l'ignorance. Mmh. Alors, si on dit, même les prières et tout ça, c'est pas.
Mais déjà, là, il faut bien voir que des fois, quand on réfléchit, il faut essayer parfois de se cantonner à un certain raisonnement. Là, on est en train d'essayer pour nous-mêmes, de prouver l'existence des enfers. D'accord ? Donc, on prend des exemples extrêmes. Mm-hmm. Et on n'est pas en train de juger Adolf Hitler. On est essayé juste en train d'essayer de comprendre un mécanisme. Un mécanisme, le samsara, c'est un mécanisme qui n'est absolument pas. D'un point de vue bouddhiste, c'est terrible. Le samsara, c'est terrible. L'ignorance, c'est terrible. Il n'empêche que l'ignorance, elle existe. Et que cette ignorance, elle entraîne des choses terribles. Que l'ignorance, on l'a en nous. Et que si on la développe à l'extrême, on peut faire des choses comme Adolf Hitler. Donc, on peut avoir cette conscience, d'accord ? On peut utiliser ces raisonnements pour essayer de prouver d'une manière logique l'existence de certains mondes, d'accord ? Et après, cela ne nous empêche absolument pas non plus de développer, par exemple, la compassion pour Hitler. Il faut, même d'un point de vue du Mahayana, il faut développer de la compassion pour ces êtres-là. C'est-à-dire qu'ils soient libres de la souffrance et qu'ils soient libres aussi des causes de cette souffrance. Donc, qu'ils soient libres de leur ignorance, qu'ils soient libres de commettre tous ces actes. Et après même, donc, développer une intention extrême de se dire « Moi, je vais aller l'aider à se libérer ». Mais il n'empêche qu'il faut être réaliste et il faut accepter la nature du samsara, par exemple, telle qu'elle est. Mm-hmm. Et plus on reconnaît la réalité, plus, avec une belle motivation, on va pouvoir l'aider, les êtres. D'accord ? Et encore une fois, là, on n'est pas là, effectivement, pour juger. On est juste là pour essayer de comprendre le mécanisme. Un mécanisme, en fait, existe aussi en nous, d'accord, pour purifier les mécanismes qui entraînent la souffrance et au contraire, donc développer les mécanismes qui vont entraîner du bonheur. D'accord ? Donc là, par exemple, ben c'est un peu la logique qu'on peut utiliser pour prouver l'existence des enfers ou d'autres mondes. D'accord ? Vous avez...
C'est... Les enfers, ils sont vus comme un lieu autre que sur la planète ? Enfin, parce qu'à mon sens, on peut naître sur cette planète et avoir le sentiment de vivre un enfer, que ce soit dans des maladies psychiques ou naître un peu dans un pays en guerre où il n'y a que des atrocités, ça peut paraître un enfer. Mais est-ce que c'est sur cette planète ou est-ce que ce serait ailleurs ?
Et après, il y a différentes, il y a vraiment beaucoup de distinctions dans différents enfers. D'accord ? Et par exemple, donc on ne sait pas où est Adolf Hitler maintenant, mais ce qui est sûr, c'est qu'il a créé un certain nombre de causes, d'accord ? Et que par exemple, ces causes sont tellement intenses que par exemple, le monde que va créer ces causes ne peut pas appartenir, par exemple, à cette planète. Parce qu'aucun individu sur cette planète... il peut être capable d'expérimenter la souffrance qui est expérimentée par 20 millions de personnes. Donc après, dans les textes bouddhistes, ils disent qu'il y a des enfers aussi occasionnels qui se trouvent sur notre planète. Par exemple, tu es dans une voiture en feu, ils vont qualifier ça d'enfer occasionnel. Tu es dans un pays en guerre, tu te reçois des bombes toute la journée sur la tête, c'est un certain type d'enfer. Mais les enfers, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le degré de souffrance qui est expérimenté est incomparable avec le degré de souffrance qu'on est capable, nous, d'expérimenter. D'accord ? Donc après, si on essaie de faire un parallèle avec la physique occidentale, se dire où se trouvent les enfers, etc., c'est déjà beaucoup plus difficile. Ensuite aussi, c'est quand on essaie vraiment de toujours appliquer cette compréhension de la vacuité. On va comprendre que les choses, elles n'existent pas de leur propre côté. Elles existent toujours, par exemple, en dépendance de l'être qui les expérimente. C'est-à-dire qu'une même situation géographique, pour un être humain, elle va être expérimentée d'une telle manière. Pour un animal, elle va être expérimentée d'une toute autre manière. On avait pris l'exemple, par exemple, d'un moustique, d'accord ? Le moustique, il va vivre cette réalité de cette pièce d'une toute autre manière que la nôtre. Et il y aura beaucoup de choses qui n'auront rien à voir avec notre expérience. Son monde, c'est sa réalité. Notre monde, c'est notre réalité. Mais ce monde, en lui-même, il n'existe pas d'une manière définitive. Il existe en dépendance, donc des individus qui vont y vivre. Et il va apparaître en dépendance, donc, du karma de ces êtres spécifiques. Mais après, définitivement, il y a sur cette planète, il y a ce qu'on appelle les enfers occasionnels. Et Dalpo Rinpoche, je ne sais pas si vous le connaissez, ce très grand maître qui parle français, qui habite en région parisienne, lui, il dit des fois, on n'a même pas besoin de s'embarrasser des mondes inférieurs, etc., pour générer du renoncement, etc., parce qu'il y a un tel degré déjà de souffrance dans notre monde que c'est suffisant. Donc on a vu, on est libre déjà de ces quatre types de renaissance. Ouais. Là, je vous ai donné un petit peu la méthode pour comment arriver à émettre l'hypothèse des renaissances. Donc, et des renaissances dans différents mondes. Okay. Parce que c'est important, on ne peut pas juste accepter, si vous essayez juste d'accepter avec une foi aveugle ce qu'on est en train de dire, va arriver un moment où vous allez avoir une rébellion intérieure. Vous allez dire, mais tout ça, mais qu'est-ce que c'est que tout ça? Ça n'existe pas, etc. Donc il faut essayer vraiment de comprendre, de ressentir la logique qu'il pourrait y avoir, la validité de ce qui est dit, d'accord? Ensuite, être né dans une région lointaine où la religion n'existe pas, d'accord? C'est-à-dire, là, les quatre types de religieux sont absents, les moines, les nonnes, novices... c'est-à-dire où il n'y a pas une communauté religieuse. Nous sommes dans une région en Europe où justement les moines ou les nonnes pleinement ordonnés, les novices, sont présents.
Quand ils parlent de religieuse, ils disent uniquement de la religion bouddhiste.
Donc dans ces, si on prend ça parlement strictement, oui. Mais après, on peut dire juste, on pourrait un peu essayer d'étendre ça et se dire, ben, un système religieux qui permet de développer l'amour, la compassion, ou de se libérer, d'accord ?
Il n'y a aucune religion, ça n'existe pas, la religion.
Ou dans certaines dictatures, il n'y a aucune liberté. Et puis, il y a eu, maintenant, peut-être à cause du développement. Développement industriel, etc., la technologie, on peut un petit peu communiquer de telle manière que effectivement c'est un petit peu obsolète, et ce qui n'est pas toujours le cas, mais il y avait une époque où il y avait des contrées, c'était des vrais barbares, et puis il n'y avait rien. Par exemple, moi je vous dis, dans Toscane, là où je suis, maintenant il y a le centre bouddhisme, avant que j'y étais, les paysans toscans, et ça aurait pu être considéré comme une région barbare. Avec vraiment prendre plaisir à la chasse, etc., à plein d'attitudes qui ne sont pas vraiment des attitudes spirituelles ou religieuses. Donc si vous êtes par exemple dans un environnement tel quel que vous n'avez pas vraiment la possibilité d'aller autre part, eh bien on sera considéré comme étant avoir pris une naissance dans une région lointaine.
Peut-être né dans une famille où on ne pratique pas du tout aussi.
Ça dépend. Si on est clos dans cette famille, ça pourrait effectivement retomber dans cette catégorie. Ensuite, être né à une époque où aucun Bouddha n'est apparu. Dans la cosmologie bouddhiste, il faut voir que c'est une présentation qui est extrêmement vaste. D'accord ? Donc il y a, par exemple, la création d'un univers. Il demeure, il disparaît, etc. Recréation de l'univers. Et il y a des périodes cosmiques, comme ça, où il y a, par exemple, là actuellement, on vit dans une période cosmique où il va y avoir 1000 Bouddhas qui vont apparaître, okay, et qui vont enseigner. Mais il y a des périodes cosmiques où il y a des univers qui sont créés, etc. Et il n'y a aucun Bouddha qui apparaît. Aucun Bouddha qui apparaît, ça veut dire aucun enseignement. Rien. Et cette période extrêmement qui est qualifiée noire, eh bien, comme il n'y a pas de Bouddha qui apparaît, il n'y a pas l'enseignement du Bouddha, il n'y a aucun moyen de transformation intérieure. On est libre d'avoir pris renaissance à une telle période. Ensuite, être né avec des différences mentales ou physiques, des déficiences, pardon. Là, on parle d'handicaps très très lourds qui vont être un grand obstacle à justement l'étude. Encore une fois, avec les progrès techniques, par exemple, auparavant, si on avait été aveugle, ça aurait été un très gros handicap parce qu'on n'aurait pas pu lire. D'accord ? Mais maintenant, donc, avec les systèmes qui ont été adoptés, on peut passer au-delà de ce handicap. Mais effectivement, plus on a des handicaps lourds, et plus la pratique va être excessivement difficile. Ok ?
Mais cet handicapé, est-ce qu'il ne peut pas justement donner que l'autre, qui vit avec, dans une famille vraiment handicapé mental, et la famille s'occupe de donner progressivement, de développer l'amour et la compassion ? Donc, cette personne qui est née avec un grand handicap, c'est dû à son karma, c'est au lieu de ses dommages, etc. Mais à l'autre côté, il peut donner quelque chose de positif pour que les gens avec l'entourement, disons, peuvent développer l'amour, la passion, la patience pour là, vivre et donner le sens à cette fille.
Mais là, en fait, on se place, si par exemple je prends Renaissance, d'accord, avec des handicaps extrêmement lourds, très très lourds, que on va dire, par exemple, je ne peux pas lire, d'accord, je ne peux pas écrire, même j'ai des difficultés telles que je ne peux pas me concentrer à écouter, etc. Je vais avoir pratiquement aucune possibilité de développement intérieur, même si après, de par mon état, je vais aider les autres à ce que eux développent l'amour et la compassion, mais moi je suis extrêmement limité dans mon développement. D'accord ? C'est là le point qu'on essaie de... Par exemple, plus je vais avoir des handicaps très très lourds, par exemple, on prend un handicap mental très très lourd qui me bloque complètement à pouvoir étudier, à pouvoir développer la méditation, la concentration. D'accord ? Je ne vais pas pouvoir sur cette base, avec ce corps, par exemple, m'entraîner à la concentration, m'entraîner à la sagesse pour aboutir, par exemple, à la réalisation de la vacuité. Donc là, en fait, ce qu'on est en train de dire, c'est nous sommes libres de cet état. D'accord ? Parce que ce qu'on veut, en fait, c'est développer cette sagesse, cet amour. Si on avait pris une telle renaissance, ça aurait été très, très, très difficile. Donc là, on prend conscience qu'on est libre de ça. Après, là encore, on ne juge pas du tout les êtres qui ont ces handicaps. Et ces êtres qui ont ces handicaps, effectivement, ils peuvent être un support pour nous pour développer encore plus d'amour et de compassion. Donc, ils sont extrêmement bons envers nous. Mais si nous, nous avions une telle renaissance, ou eux, ayant une telle renaissance, ils ne peuvent pas... Oui, ils sont extrêmement limités pour développer toutes ces qualités de concentration, de sagesse, etc.
Oui, mais s'ils développent quelque chose de bon... Pour les autres, la patience est quelque chose, il y a quelque chose quand même de positif, karma positif qui crée. Quoi.
Ah, là on ne dit pas que c'est. Même un animal, il peut créer des karmas positifs. Par exemple, la mère lion qui développe de l'amour pour ses petits, ça c'est un karma positif. Mm-hmm. Donc après, on ne dit pas que dans tous ces différents mondes, la création d'une certaine vertu. Est impossible, mais ça devient extrêmement limité. Et après, par contre, c'est pratiquement impossible de développer vraiment des réalisations, d'accord, de vraiment cheminer de manière claire, prononcée sur le chemin. Anise. Bon, là j'utilise mon joker. Mais en fait, un être handicapé, je ne peux pas dire quelle est l'action passée qui a été effectuée qui génère cet handicap. Après, ce qu'on peut juste un petit peu essayer de comprendre, c'est si pour la personne, ce handicap provoque de la souffrance, on peut dire que l'action qui a été générée, qui a provoqué ce handicap de manière sûre, est une action négative. Si la personne a ce handicap et que elle ne souffre pas vraiment de cet handicap, l'action n'est pas forcément si négative. Parce que entre l'action qui est la cause et le résultat, il doit y avoir une similitude, d'accord, dans la nature de l'expérience positive, bonheur ou souffrance et négatif. Ce qui est sûr, c'est que, encore une fois, renaissance avec un handicap, c'est pas une renaissance très favorable pour le développement spirituel. Mais si le handicap est léger, moi j'ai par exemple en France, à l'Institut Vajrayogini, j'ai des amis qui ont des handicaps, même physiques un peu lourds, mais ils pratiquent. Donc à ce moment-là, là c'est un handicap qui est réduit, surtout. Dans notre civilisation, notre culture actuelle, où on essaye de faciliter la vie donc des personnes qui ont ces handicaps, donc il peut vraiment progresser intérieurement. Et là, on pourra dire que cette personne, il a une précieuse renaissance humaine, parce qu'il n'a pas d'obstacle fondamental à son développement intérieur. Mais après, je suis désolé, vraiment, qu'est-ce qui cause qu'on ait un handicap, ça je ne peux pas. Je ne peux pas répondre. Et en fait, il faudrait... je ne sais même pas s'il y a des textes qui avec précision, vont dire quelle est la cause. Ou alors, il faudrait avoir des capacités de clairvoyance. Non, de forte clairvoyance.
Mais de toute façon, ce serait quand même un karma. Ce serait quelque chose... Ou pas forcément.
Ben, d'une manière générale, j'ai plutôt tendance à voir dire... Généralement, c'est plutôt lourd dans le sens plus l'handicap va être lourd, plus il y a des difficultés qui sont générées pour la personne, plus il y a de la souffrance qui sont générées pour la personne. Donc, automatiquement, il y a cette similitude entre l'effet et la cause.
C'est quand même difficile parce que c'est l'esprit qui va. On a parlé ça hier, entre l'ovule et le sperme, c'est l'esprit qui va chercher le corps de sa maman, etc., l'environnement et de tout.
Alors cet esprit, il a plein de karma négatif. Bon, ok, il se plante dans un moment, mais pour nous, non, mais c'est comme ça. Et pour nous, qu'est-ce qu'on voit? La maman a eu une telle maladie et telle état, ça a provoqué que l'enfant qui va être né a une est un handicapé. Ou même, l'enfant était peut-être très bien, mais pendant l'accouchement, il a quelque chose, un manque d'oxygène, tac, il a. Mais où? Comment est-ce que je comprends, numéro un, que maintenant je vais juger, hein, je sais, mais c'est quand même, l'enfant a choisi un moment pour elle souffre dans toute sa vie parce qu'elle a fait un enfant qui n'est pas capable de dire ni quoi que ce soit que fait, ce qu'elle peut répondre avec l'amour pour cet enfant, mais il y a une souffrance pour elle et pour sa soeur, ça, et tout le monde de la famille.
Déjà, l'enfant, il choisit rien du tout. Dans
c'est
le samsara.
Non, c'est l'esprit qui a choisi.
Même l'esprit, il choisit rien du tout. C'est le problème du samsara. Dans le samsara, on est esclave de nos perturbations mentales et du karma. Mm-hmm. On ne choisit pas. La preuve qu'on ne choisit pas. On veut le bonheur. D'accord ? Mm-hmm. On veut tous le bonheur. Et on doit tellement faire l'expérience de souffrance. Si on était vraiment apte à choisir, on choisirait le bonheur à 100%.
Non, non, mais parce que cet esprit a un karma négatif, alors il va
donc,
être...
L'esprit, il ne choisit pas, il se retrouve dans telle situation. La mère, elle aussi, elle, mm-hmm. elle a un karma très lourd qui fait qu'elle doit vivre cette expérience de souffrance. Mm-hmm. Et là encore, c'est son propre karma de mère, d'accord, qui la pousse à vivre ça. Il y a le karma de l'enfant qui fait qu'il va souffrir en tant que, par exemple, être handicapé. Et puis après, il y a tout l'entourage qui va souffrir de par leur karma individuel. C'est-à-dire, par exemple, je prends un autre exemple. Si moi, je vous fais souffrir, moi, dans votre souffrance, je suis qu'une cause extérieure. J'ai bien dit, non pas une cause, une condition, pardon, extérieure. Une condition secondaire. La cause principale, c'est quoi? Votre karma. D'accord? Ça, je vous parle dans le cadre de votre expérience à vous. Après, dans mon cas, mon expérience personnelle, le fait que je vous fasse souffrir, je suis en train de créer un karma, une cause qui va faire que je vais souffrir par la suite. D'accord ? Et peut-être que par la suite, c'est vous qui allez me faire souffrir, mais vous, vous ne serez qu'une condition secondaire. Et la cause principale, ce sera le karma que j'aurai créé.
Moi, j'ai une question, mais ça fait longtemps que je l'ai, mais je n'avais pas répondu. Quand t'es stupide, on parle de karma.
Hein?
Il y a 150 ans, il y avait 4 milliards d'habitants sur la planète. Maintenant, il y en a 6 milliards ou 7 milliards. Comment ça marche? Parce que plus ça va pour les nombreux, donc cette histoire de karma, puisqu'on se réincarne, on revient, ça marche moins, puisque plus ça va, plus on augmente.
Même, je vais t'aider, il y a 50 ans, on était 2 milliards et demi, il paraît.
Il y a 50 ans?
Oui. Plus ou moins, ou un peu exactement, juste après la Seconde Guerre mondiale, un peu avant le baby boom, il paraît que dans le film de Al Gore, ils disent 2 milliards et demi. Donc maintenant on est un peu plus de 6 milliards, il paraît que dans 25 ans on sera 9 milliards. D'accord ? D'un point de vue bouddhiste, le nombre d'êtres vivants, sensibles, est infini. Dans l'univers, il y a un nombre infini d'êtres. D'accord ? Le nombre, il n'évolue pas. Il est infini, sans début, sans fin. Par contre, monde sur cette planète, être humain, le nombre, il peut varier. Tout simplement parce que il y a donc des êtres d'autres mondes, d'animaux, des enfers, des dieux, qui vont prendre naissance en tant qu'êtres humains. Même là, on parle d'êtres humains de cette planète, mais dans la cosmologie bouddhiste, on ne parle pas nécessairement d'une planète avec des êtres humains. Il peut y avoir d'autres mondes avec des êtres humains. Donc après, c'est juste un échange entre les différents mondes, d'accord ? Mais le nombre, il reste exactement le même, infini. Il n'y a pas de variation.
Donc, plus ça va, quand même, plus il y a une conscience qui se réveille, que plus ça va être nombreux dans des mondes pas si inférieurs que ça. Quand même.
Après, là on est en train de voir. Après, on est en train de voir donc là la précieuse renaissance humaine. Mais j'ai pas parlé de renaissance humaine. On parle de précieuse renaissance humaine. On va voir qu'il y a beaucoup d'êtres humains qui n'ont pas cette précieuse renaissance humaine. Et c'est-à-dire, par exemple, je suis pas sûr que quand George Bush il va faire le bilan de sa vie, si ça continue comme ça, ce fut une expérience spirituelle, une grande progression. D'accord ?
Ça veut dire qu'il va revenir dans les mondes inférieurs ?
Bah, d'un point de vue du karma, si on essaie juste d'être objectif sans juger, George Bush, il a décidé de faire des guerres, un certain nombre de guerres, c'est-à-dire qu'il a décidé d'envoyer des militaires pour tuer. D'un point de vue du karma, on dit que ordonner de tuer, d'accord, c'est même plus lourd que de tuer soi-même, parce qu'on accumule le karma nous-mêmes de tuer, mais en plus, la responsabilité de faire tuer. D'accord ? Donc, George Bush, eh ben, il a donc emmagasiné tout ce karma d'une tuerie. Surtout si on regarde la motivation qui l'a poussé à faire ça, peut-être c'est pas génial. D'accord ? Donc effectivement, sa vie humaine, George Bush, il l'aura utilisée à des fins plutôt négatives. Et est-ce qu'il a une précieuse renaissance humaine ? Non. Parce qu'on va voir qu'il, justement dans le point 8 là, il y a marqué « entretenir des vues erronées ». Et que très certainement, George Bush, il entretient ses vues erronées. Donc il ne possède pas une précieuse renaissance humaine. Et ce que tu dis, en fait, ça revient un peu à une fois à il y avait un enseignement avec un très très grand lama, il y avait une grande assemblée, et puis le maître il parlait de la précieuse renaissance humaine. Et alors d'un seul coup, il y a quelqu'un qui s'élève dans l'audience et qui dit mais pff, ça se voit vraiment que vous n'êtes pas allé en Chine, hein, parce que en Chine, donc lui il est allé en Chine et il y avait plein d'êtres humains. Même il y avait tellement d'êtres humains qu'il y avait d'énormes problèmes. Et bon, il lui dit ça se voit que vous n'êtes pas allé en Chine, parce qu'ils sont tellement nombreux là-bas que. Donc il y a une grande différence entre précieuse renaissance humaine et renaissance humaine. D'accord. Et une renaissance humaine, donc elle est plus favorable effectivement que les êtres, les enfers, etc., les animaux, mais en soi, il y a peut-être moins de souffrance, mais ce n'est pas ça qui va qualifier d'une précieuse renaissance humaine. D'autre part, après, tu sais, tu dis qu'il y a une augmentation dans un monde plus positif, mais peut-être que dans un autre univers, il y a une autre planète avec des êtres humains et que ce nombre il diminue. Donc tu vois, ça fait un équilibre, ça fait toujours un équilibre. Donc là, après...
C'est abstrait quand même comme notion. Parce que dans d'autres mondes, il y a des tâches d'avant.
Mais après, les présentations de cosmologie bouddhiste sont extrêmement vastes. Ouais. D'accord. Donc déjà, la cosmologie bouddhiste parle d'un nombre infini d'individus. Donc déjà, pour notre esprit, là, ça a tendance un peu à détruire un peu des images qu'on avait. Je ne pense pas que, avant de rencontrer le bouddhisme, on pensait que le nombre... d'individus était infini. Non, non, pas vraiment. Donc on continue. On n'est pas né à une époque où aucun Bouddha n'est apparu. On n'est pas né avec des déficiences mentales ou physiques. On n'entretient pas des vues erronées. Donc les vues erronées, c'est par exemple avoir des vues très 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 rigides et ne pas croire par exemple dans la loi de cause à effet, d'accord, ou les trois joyaux. Et si on a ces très fortes vues erronées, eh bien, on va pas absolument pas se mettre à pratiquer, à essayer de transformer notre esprit et nos actions. On va juste continuer à, par exemple, assouvir le plaisir des sens et nos désirs et nos insatisfactions, d'accord. Par exemple, comme ces chasseurs qui vont tuer ou des gens qui font tout et n'importe quoi juste pour essayer de d'éprouver un petit peu du bonheur, parce qu'ils n'ont pas cette compréhension de la loi de cause et effet. Ensuite, boum, le micro. On est libre de ces 8 types de renaissance, d'accord, mais ce n'est pas suffisant. En plus, on a 10 attributs, 10 qualités. On est né en tant qu'être humain, on est né dans une telle contrée centrale, ça veut dire justement une contrée où il y a une communauté religieuse, on a des facultés qui sont complètes, on n'a pas commis ce qu'on appelle les 5 crimes irrémédiables ou atroces, qui sont tuer son père, sa mère, un destructeur de l'ennemi, un arhat, d'accord, avoir fait couler le sang du Bouddha, ou avoir créé un schisme dans la Sangha, c'est-à-dire une séparation dans la Sangha. Le schisme dans la Sangha, ne vous inquiétez pas, on ne peut pas le faire parce que tout simplement, c'était un acte qui était possible uniquement à l'époque du Bouddha, du vivant du Bouddha. Donc, comme le Bouddha il vit plus là. Et ensuite, avoir foi dans le Tripitaka. Le Tripitaka, ce sont les trois corbeilles, d'accord. Donc c'est les trois corbeilles, c'est les enseignements du Bouddha. Ils sont répertoriés dans trois catégories, ce qu'on appelle le Vinaya, comme vous pouvez voir, le Sutra et l'Abhidharma. Ces trois, c'est les enseignements du Vinaya, c'est les enseignements sur toutes les règles monastiques. Ok. Ensuite, donc il y a les Sutras et l'Abhidharma. Ces enseignements, on peut faire un parallèle avec ce qu'on appelle les trois entraînements supérieurs. Le Vinaya parle de l'entraînement supérieur. Entraînement supérieur en la moralité pour le Vinaya. D'accord ? Les Sutras vont parler des entraînements supérieurs pour développer la concentration. Et enfin, l'Abhidharma va traiter de l'entraînement supérieur pour développer la sagesse, l'entraînement supérieur en la sagesse. Ensuite, donc, on est né à une époque où un Bouddha est apparu dans ce monde. Il a enseigné, d'accord, ou ses disciples enseignent le Dharma. Le Bouddha, il est apparu, il a enseigné, mais le Dharma, il continue à perdurer, à exister. La preuve, c'est qu'on est en train de réfléchir sur le Dharma. Ensuite, on est né à une époque où le Dharma, il est toujours pratiqué. Et on est né quand des bienfaiteurs soutiennent les pratiquants du Dharma. Ça, j'en sais quelque chose. Vous vous rappelez le déjeuner d'hier. Donc, après, si on a ces 8 libertés et ces 10 attributs, en fait, il ne nous manque rien pour pouvoir pratiquer. C'est-à-dire, il ne nous manque rien pour pouvoir transformer se mettre à pratiquer, pour transformer notre esprit. Vous pensez avoir ces 18 qualités ? On les a passées en revue. De manière générale, oui ou non ?
Oui.
Oui, oui. Hein ? Donc là, vous n'avez plus aucun alibi. Non, parce qu'on est toujours là. Oui, si seulement j'avais un peu plus de temps. Oui, mais si seulement ceci, cela. Si on a ces 18 qualités, bingo, on peut pratiquer. Il ne nous manque rien d'autre.
Et par rapport à la misère humaine, moi j'ai toujours le sentiment d'être totalement impuissant. En Irak, Bush envahit, donc les Irakiens se vengent, puis les Américains, et puis après, ben, c'est sans arrêt, ça s'arrête jamais. Qu'est-ce que pensent les bouddhistes de ce monde qui n'arrêtent jamais de se venger, et puis c'est vraiment décourageant.
Mais en fait, la première chose à faire, c'est de voir que ce qui entraîne un petit peu toute cette atrocité, donc c'est des fonctionnements de l'esprit, donc chez autrui. Mais nous-mêmes, en nous, si on regarde bien, à bien moindre mesure, on les a en nous aussi. Donc la première chose à faire, c'est pacifier toutes ces causes de souffrance qui sont déjà présentes en nous. Causes de souffrance pour nous, mais aussi pour les autres. D'accord ? Même, on voit bien que dans notre vie de tous les jours, par nos attitudes dues à notre colère ou notre attachement, etc., on va se mettre à faire souffrir les autres. Donc la première chose à faire, c'est pacifier ça. Ensuite, c'est développer un amour, une compassion, jusqu'à ce qu'elle devienne illimitée. Et aussi, entre autres, donc après, c'est continuer à entreprendre énormément de purification et surtout d'accumulation d'énergie extrêmement positive qui vont nous permettre de développer des qualités infinies et qui vont nous permettre de plus en plus facilement d'aller aider les autres. Et il y a des êtres, donc on a pris l'exemple de Mère Teresa, de l'abbé Pierre, etc., de sa sainteté le Dalai Lama, mais peut-être beaucoup d'entre vous avaient déjà rencontré Lama Zopa Rinpoche. Et c'est un individu, on peut voir un individu, il va toucher un nombre de personnes, mais incroyable. Et dans le cas de Lama Zopa Rinpoche ou du Dalai Lama, c'est des milliers et des milliers et des milliers de personnes. Et il va les aider à transformer leur esprit, à abandonner les causes de la souffrance. D'accord ? Créer les causes de la libération, créer les causes du bonheur. Le bouddhisme dit, voilà ce qu'on peut faire. On peut, si on veut, soi-même se libérer de la souffrance, mais beaucoup mieux encore, c'est donc se libérer de la souffrance et en même temps développer des qualités infinies pour après aller aider les êtres pour qu'il se libère de la souffrance. Et les enseignements du bouddhisme disent il va falloir développer un courage illimité, parce que les êtres dans le samsara sont infinis, et donc il va falloir encore et encore et encore leur venir en aide. Et entre autres, donc, développer ce qu'on appelle l'effort joyeux, c'est-à-dire c'est un enthousiasme à pratiquer la vertu, à venir en aide aux autres. Et il y a des êtres, plus ils aident, plus ils sont heureux. Donc là, en développant cette énergie, on coupe complètement ce découragement, un petit peu, quand on regarde cette situation catastrophique du samsara, on ne se laisse absolument pas décourager, bien au contraire, on va et on aide encore et encore.
Est-ce que dans le bouddhisme, il y a cette notion de samsara étrange ou en fait cette souffrance pour tous les êtres vivants?
C'est possible. Il y a donc après les problèmes, c'est dans le bouddhisme, des fois, surtout dans cette école Gelugpa, débattent vraiment à un niveau philosophique, d'accord? Donc ils s'amusent sur les termes et ils disent d'un point de vue général, on ne peut pas dire que le samsara va s'arrêter. Par contre, on peut dire que le samsara de chaque être va s'arrêter. C'est-à-dire, un Bouddha, par exemple, il est capable de voir que chaque individu, un jour, il va arriver à la libération de la souffrance.
Parce qu'il est devenu un Bouddha lui-même ?
Parce qu'il est omniscient. Donc, il voit que... parce que chaque individu a le potentiel, le Bouddha. D'accord ? Ce potentiel, à un moment ou à un autre, il va être actualisé. On va atteindre l'illumination. Pour chaque individu, ça, c'est une vérité. Mais après, comme le nombre des individus est illimité, ils n'arrivent pas à, d'un point de vue philosophique, ils ne peuvent pas dire, mais le point de vue philosophique, on s'en moque un peu maintenant, ils ne peuvent pas dire que le samsara en général a une fin. Et donc, pour répondre directement à la question, est-ce que tous les individus, un jour, seront libres de la souffrance? Oui. D'un point de vue bouddhiste, oui. Mais il faudra être patient. Hein.
D'accord. Quand il dit dans la prière Bouddha, faites tourner la roue
du Dharma.
Ouais.
La roue du Dharma.
La roue du Dharma, qu'est-ce que ça veut dire quand il...
La roue du Dharma, ça veut dire la roue des enseignements. Et des enseignements, là, le Bouddha, il enseigne d'une manière complètement pure. D'accord. Donc la roue du Dharma, c'est le Bouddha va enseigner d'une manière complètement pure. Donc on fait la requête à un Bouddha de venir et d'enseigner pour pouvoir nous libérer. Donc, en fait, on a ces 18 qualités. Donc, on a tout pour pratiquer. Donc, il faut vraiment développer cette conscience en nous. Parce que vous êtes d'accord que très souvent, dans notre cœur, on ne ressent pas ça. Donc, il faut prendre le temps de réfléchir et de se dire, eh bien, les grands êtres du passé nous disent, il ne nous manque rien d'autre pour pratiquer. Ok. Ensuite, c'est qu'est-ce qu'on peut faire avec cette renaissance, cette précieuse renaissance humaine, avec toutes ces qualités qu'on a. On peut, vous pouvez suivre un petit peu sur votre texte, développer sur les valeurs temporaires. C'est-à-dire, on peut créer des causes. Page 101. On peut développer donc les causes pour avoir des renaissances supérieures et si possible, des renaissances où on va pouvoir toujours continuer à pratiquer, à se transformer, à évoluer, à venir en aide aux êtres. D'accord ? Par exemple, on peut toujours créer des causes pour avoir des précieuses renaissances humaines. Ok ? J'avais un ami moine, lui, il jouait un peu. Et alors, il disait, ouais, moi, dans la vie prochaine, je veux être un super footballeur genre Zidane, Zinedine Zidane. D'accord ? Et en fait, c'est vrai, avec cette précieuse renaissance humaine, vous pouvez, en fait, obtenir une certaine dose de liberté et... un petit peu comme sur une carte, choisir ce que vous allez devenir. Il suffit juste de créer les causes, d'accord, de ce que vous souhaitez pour pouvoir l'obtenir. Donc Zinedine Zidane, il est riche. Eh bien, il suffit de pratiquer la générosité, parce que la générosité est la cause pour obtenir soi-même la richesse. D'accord. Si vous voulez devenir beau, très simple, le bouddhisme dit, la cause de la beauté, c'est quoi? C'est la patience. Il faut pratiquer la patience. Et donc, cet ami moine, il avait réfléchi, il disait Zinedine Zidane, donc il est riche, il est ceci, il est cela, là, là, là. Donc il faut que je m'entraîne à faire ceci, cela, cela, cela. D'accord ? Donc ça paraît un peu limité, d'accord ? Mais ça montre que, en fait, il avait quand même une compréhension très profonde et qu'il rigolait un petit peu, mais qu'après, dans la vie de tous les jours, il respectait vraiment la loi du karma, parce qu'il avait compris que notre expérience de la vie de tous les jours n'est que le résultat de ce qu'on avait commis dans le passé. Donc il s'évertuait à créer des belles choses pour que dans le futur, il n'y ait pas d'embêtement. Donc avec cette précieuse renaissance humaine, on peut vraiment créer des causes, donc par exemple maintenir la moralité et aussi pratiquer les cinq autres perfections, d'accord, pour avoir une précieuse renaissance humaine, pour toujours pouvoir être en contact avec les enseignements, pour toujours avoir les conditions favorables pour se transformer intérieurement. Un niveau ultime, qu'est-ce qu'on peut faire? Avec cette précieuse renaissance humaine, on peut créer les causes pour obtenir la libération ou l'illumination. Okay. Et ces valeurs, en fait, on les a, ce très gros potentiel, on les a à chaque instant. Ok, Pauline.
Est-ce qu'un être évolué pourrait retourner dans le monde des enfers pour aider les gens qui sont dans les enfers? Qu'est-ce qui est plus utile dans le monde supérieur?
Un être extrêmement évolué, il n'est pas limité par avoir une manifestation. Il peut avoir une multitude de manifestations. Et s'il y a la possibilité d'aller dans les enfers pour les aider, il le fait. Mais peut-être que les aides des enfers, eux, ils ont créé une telle énergie négative qu'ils ne sont pas réceptifs. Donc là, en fait, il faudrait en fait chaque jour, chaque matin, quand on se réveille, se dire « Ok, j'ai ce très grand potentiel. » D'accord ? Un potentiel temporaire, ultime, à chaque instant. Comment je vais l'utiliser? Chaque jour, on devrait se poser cette question, se dire, qu'est-ce que je fais de ma journée? Et je peux en faire des très belles choses, je peux en faire aussi des choses terribles. D'accord? Là, on peut tout simplement se rappeler de la discussion qu'on a eue auparavant, le potentiel négatif de l'esprit, potentiel positif de l'esprit. Choisir entre les deux, en étant conscient que si on choisit les attitudes d'attachement, de colère, etc., eh bien, ça va entraîner des situations extrêmement douloureuses, abominables, telles qu'elles sont présentes, d'accord, dans les pays en guerre, etc. On peut aussi, par contre, développer, se dire, je vais développer des belles qualités d'amour et de compassion, qui entraîneront quoi? Des attitudes et des situations telles qu'elles ont été générées par les grands êtres, telles que Mère Teresa, etc. Donc, vraiment, se dire, qu'est-ce que je veux faire? Et prendre une décision. Et on veut le bonheur, donc essayer de développer le potentiel positif dans notre esprit, notre vie, et tout au long de la journée, essayer de regarder est-ce que oui ou non, je suis en accord avec ce souhait. Ok ? La précieuse renaissance humaine, après si on tourne un petit peu les pages et qu'on va... Donc après, tranquillement chez vous, vous pouvez lire un petit peu ce que Geshe Thupten Lhodon dit. Réfléchir sur la difficulté de leur obtention. Donc, page 104. La précieuse renaissance humaine, elle est extrêmement difficile à obtenir. Pourquoi? Parce que créer les causes pour obtenir cette précieuse renaissance humaine, elles ne sont pas faciles. Essentiellement, c'est donc la pratique de la moralité. D'accord? Ensuite, c'est aussi s'entraîner dans les autres perfections, la générosité, la patience, l'effort joyeux, la concentration et la sagesse, et faire des prières d'aspiration pour renaître en tant qu'être humain avec toutes ces 18 qualités. Donc après, on fait un petit examen individuel. Est-ce que oui ou non, je respecte, j'ai une éthique pure, une moralité pure?
Beau.
Si vous faites comme moi, beau, ben ça veut dire que vous ne créez pas tellement les causes pour avoir une précieuse renaissance humaine dans le futur. Est-ce que oui ou non, je m'entraîne dans les cinq autres perfections?
Bon.
Je ne crée pas, donc vraiment, des causes pour avoir encore une précieuse renaissance humaine. Est-ce que je fais des prières d'aspiration pour avoir une précieuse renaissance humaine?
Bon.
Donc, vous faites cet examen pour vous-même, et est-ce que oui ou non, dans cette vie, vous êtes en train de créer les causes pour une précieuse renaissance humaine? Non. Et d'avoir une pure moralité, est-ce que c'est facile? Pas facile, hein. Même si on le veut, c'est dur, non? S'entraîner dans des autres six perfections, c'est pas facile. D'avoir des prières d'aspiration pure, c'est pas facile, hein. Et c'est les causes qui sont nécessaires pour obtenir cette précieuse essence humaine. Donc là, on peut générer une très grande joie, parce que peut-être qu'on ne les génère pas maintenant, mais on les a générées. D'accord ? Donc, c'est extrêmement difficile d'obtenir cette précieuse essence humaine, mais maintenant je l'ai. Donc il ne faut absolument pas que je la gaspille. Il faut que je l'utilise au mieux. Ensuite, il y a l'analogie. Comment on fait cette analogie ? Eh bien, on compare justement les êtres des différents mondes. On vit à la montagne, donc vous imaginez. D'accord ? Suisse, la densité de population en Suisse, elle n'est pas énorme, énorme. Mais on imagine Élise. Elle habite donc à Chemin, dessus. Il y a combien de personnes qui habitent là-haut ?
150.
150, d'accord ? 150. Sur ce même périmètre, Chemin dessus, on compte le nombre d'insectes qui peuvent être présents au printemps, donc à terre, été. Vous voyez un peu le parallèle qu'il y a ? Être humain, animal, être humain insignifiant, animal, énorme. Les esprits avides, ils sont encore plus nombreux que les animaux. Les êtres enfers, encore plus. Là, on a parlé juste d'êtres humains. Chez les habitants, le chemin dessus, combien sont ceux qui ont une précieuse essence humaine ? Peut-être beaucoup moins que les 150. Combien ces êtres qui habitent le chemin du dessus sont libres d'avoir des vues erronées ? D'accord ? Donc là, on voit que par rapport au nombre d'êtres sensibles dans leur intégralité, le nombre d'êtres qui ont une précieuse renaissance humaine sont infimes. Nous avons cette opportunité, nous avons ce joyau, ici et maintenant. D'accord ? Ah, en fait, je me suis trompé là, j'ai dit analogie, mais ça, c'est, je suis en train d'expliquer le nombre, pardon. L'analogie, c'est l'analogie avec la tortue marine, qui est aveugle, la pauvre. Tortue marine, vous imaginez, qui se balade au fond de l'océan Atlantique, l'océan Pacifique, l'océan Indien, etc. D'accord ? Donc cette tortue, elle ne remonte qu'une seule fois tous les 100 ans. À la surface, ouais. Elle est aveugle. À la surface de l'océan, Indien, Atlantique, Pacifique, il y a un joug qui est d'or. Vous imaginez le pourcentage de chance qu'il y a pour que la tortue qui est aveugle passe la tête dans cette bouée, dans ce joug, alors qu'elle remonte qu'une fois tous les 100 ans et qu'elle est aveugle. Vous imaginez la superficie, donc de l'océan Atlantique, Indien, Pacifique, pratiquement nulle. Cette analogie, elle correspond à quoi ? Nous sommes cette tortue. Nous sommes aveugles, aveuglés par notre ignorance, d'accord ? Nous sommes au fond de l'océan parce que la majeure partie de notre temps, on la passe dans les mondes inférieurs. Une fois, une fois de temps en temps, très rarement, on prend renaissance dans des mondes supérieurs, on remonte à la surface, une fois tous les 100 ans, d'accord ? Précieuse renaissance humaine, c'est le fait qu'on passe notre tête dans cette bouée. En or. Donc on dit avoir une précieuse renaissance humaine est aussi rare que cette tortue, donc qui est aveugle, qui remonte une fois que tous les 100 ans, passe sa tête dans cette bouée. Donc là on peut voir que là, l'opportunité que nous avons, l'état que nous avons maintenant, il est extrêmement rare. Vous êtes d'accord ou pas ? Donc là on comprend avec les mots, il va falloir essayer vraiment de comprend ça avec le cœur. Vous rendez compte du potentiel de cette précieuse renaissance humaine ? Vous rendez compte de ce qu'on peut faire avec cette précieuse renaissance humaine ? On peut atteindre l'état de Bouddha avec cette renaissance humaine ? On peut devenir des mères Teresa multipliées par 1 million ? D'accord ? On a vraiment cette opportunité. Donc, quand on médite, là, on est en train juste d'en parler, mais après, on fait tout ce processus plus tranquillement. D'accord ? En amenant un petit peu des exemples individuels, on va aboutir à un état d'esprit, se dire « je veux le bonheur ». Qu'est-ce qui m'apporte le bonheur ? La pratique du dharma. Parce que j'ai cette précieuse renaissance humaine, d'accord ? Je peux pratiquer le dharma. j'ai toutes les conditions pour pratiquer le dharma. Il faut que je pratique le dharma, donc pour obtenir ce bonheur, et il faut que je le pratique maintenant, parce que je ne sais pas quand cette opportunité que j'ai avec cette précieuse renaissance humaine va cesser. Donc cette méditation, elle est faite pour se générer ces quatre états intérieurs. Une très grande joie, d'accord, avec une très grande aspiration à tirer vraiment profit de cette situation et vraiment tout faire pour développer ces qualités d'amour, de compassion, de sagesse, vraiment tout faire pour pacifier nos perturbations mentales, faire que notre vie, elle ne soit pas une nuisance pour autrui, mais au contraire, donc, une vie qui va apaiser la souffrance, la nôtre et celle d'autrui. Ok ? Si ? Non ? 6h45. Non, pas 6h45. Si, 6h45, là, 16h45. Alors, je vous propose peut-être, on va s'arrêter là. Vous inquiétez pas, les perturbations mentales et les antidotes, on les reverra dans un autre module, d'accord ? Donc, maintenant, lecture que je vous conseille, lisez ce chapitre sur la précieuse renaissance humaine, d'accord ? Aussi, donc, il y avait il parlait un petit peu du potentiel de Bouddha. Oui, page, c'était quoi, page, je m'en rappelle plus. 150 et les suivantes, donc.
Chapitre 14.
Donc, lisez. Ouais. Non, pas les facteurs mentaux parce qu'on les a pas trouvés. Vous pouvez les lire, les facteurs mentaux, parce qu'on en a parlé pas mal. Mais là, je vous parlais aussi du potentiel de Bouddha dans le chapitre sur le refuge. D'accord ? Quand on parle des qualités du corps d'un Bouddha. Page 151. Donc, lisez-les si vous avez le temps, si vous avez l'envie, d'accord ? Aussi, généralement, donc il y a des suggestions de lecture pour chaque module. Et en français, il y a « Faître de votre esprit en océan », c'est ça, hein ? Donc, il y en a des copies ici, ouais. Donc ça, c'est un livre de Lama Yeshe qui est extrêmement inspirant. Vraiment, ça fait du bien. Il y a un autre livre aussi qui est traduit en français, mais là, il n'est pas. C'est « Soyez votre propre thérapeute ». Donc, qui exprime vraiment bien aussi un peu les qualités qu'on a, le potentiel qu'on a en tant que Bouddha. Après, si vous voulez approfondir un petit peu les facteurs mentaux, dans Trésor du Dharma de Geshe Rabten, donc il y a un chapitre qui est consacré. Et enfin, aux éditions Vajrayogini, là c'est vraiment déjà beaucoup plus lourd, hein, c'est plus philosophique, je vous dis d'entrée. Connaître l'esprit, c'est-à-dire ça traite l'esprit de ses fonctions, comment l'esprit appréhende les phénomènes. Ça explique aussi ce qu'on avait vu, non, de comment passer d'une perception erronée, complètement fausse de la réalité, à une perception juste de la réalité. Donc en passant par le doute, les suppositions correctes, j'en ai oublié une, mais c'est pas grave. Ensuite, donc, les consciences ou les conditions inférentielles et les perceptions directes.
Il y a une méditation sur ce thème-là qui existe ?
Sur ce thème-là, je crois pas. Donc après aussi, il y a. Vous avez les formulaires pour commander ce bouquin de Karine, Vénérable Karine, sur des méditations sur l'amrim, d'accord ? Comment, par exemple, méditer sur la précieuse origine sens humaine. Aussi, par rapport aux facteurs mentaux perturbateurs et aux antidotes. Donc, là, dans ce bouquin, il parle essentiellement de l'ignorance, l'attachement, la colère et la dépression. Donc, comment méditer, de Kathleen MacDonald, toujours aux éditions Vajrayogini. On va pouvoir leur dire, là, les éditions Vajrayogini, on leur fait de la pub, grave.
Donc, mais ils sont sympas parce qu'ils nous font aussi des bons pavés.
Ah bon, d'accord. Donc, dans ce livre, vraiment, il explique un petit peu les perturbations mentales et surtout comment faire face à ces perturbations mentales. Et aussi, dans comment méditer, il y a plein de petites méditations. Kathleen MacDonald, Sanghi Kadro, son nom d'ordination. Une nonne extrêmement inspirante. Donc pour les... Moi, ce que je vous conseille juste après, si vous me demandez mon avis, qu'est-ce que je suggère juste par rapport à lire par rapport à ce sujet, La précieuse renaissance humaine, d'accord, et le livre de la Maïché. Si vous pouvez procurer l'autre, aussi l'autre.
De votre esprit, non.
Soyez votre propre thérapeute.
Soyez votre propre thérapeute. C'est aussi des livres qui sont
distribués
gratuitement.
Distribution libre. Ouais. Donc après, si vous avez du temps libre, vous voulez lire aussi un peu la partie sur les émotions perturbatrices là-dedans, mais c'est bien. Après, vous avez Jean-Paul vous a distribué le... Donc ça, c'est ce que je vous propose comme évaluation pour ce module. Donc, quatre petites questions. Donc, qu'est-ce que c'est que l'esprit ? Vous mettez juste une petite définition, donc juste avec les trois ou quatre qualificatifs clés, d'accord ? Qu'est-ce que la précieuse renaissance humaine ? Encore vraiment très bref. Vous pouvez me dire, bah, c'est les 18 qualités, etc. Peut-être vous pouvez me rajouter ce qu'on peut faire avec cette précieuse renaissance humaine. Ensuite, quel aspect de l'esprit faut-il abandonner ? Donc, voyez, on a parlé de l'esprit, deux aspects principaux, d'accord ? Donc il y a quelque chose qu'il va falloir abandonner, expliquer quoi. Par contre, il va falloir développer quelque chose d'autre. Donc en une ligne encore, deux lignes, vous écrivez. Et puis, selon le bouddhisme, qui crée ? Donc il y a un peu créé, il y a une petite faute d'orthographe. Hein, c'est pas grave. Notre environnement est ce que nous sommes. Là, la réponse, vous l'avez déjà donnée plein de fois, quoi. Si vous voulez expliquer un tout petit peu en une ligne, pas de problème. Ensuite, il y a une petite dissertation. Donc, quel est le potentiel de notre esprit, de cette précieuse renaissance humaine ? Donc là, c'est un petit peu avec vos mots, en vous inspirant un petit peu de la trame qu'on a utilisée pendant ce séjour. Expliquez ce que vous avez compris de quel est votre potentiel humain, de votre précieuse renaissance humaine, d'accord ? Et donc là, on a mis 15 lignes, une page. Si vous voulez écrire deux pages, pourquoi pas, hein. On ne va pas vous limiter. Donc après, moi, je pense que ce serait une bonne idée si vous me retournez ces évaluations. Et je ne mettrai pas de notes ou quoi que ce soit, ne vous inquiétez pas. Et je pourrais juste donner un petit peu mon point de vue, peut-être surtout après sur les questions, donc c'est correct ou c'est pas correct, donc, d'accord. Et puis après la petite dissertation, donc aussi c'est très intéressant pour moi parce que j'apprends un petit peu à vous connaître ou aussi à avoir différentes visions un petit peu du monde, ouais. Et puis peut-être que soit je serais extrêmement content parce que vraiment ce que vous aurez mis sur le papier par rapport au bouddhisme, c'est une voie qui, si on la suit, apporte le bonheur. Et si peut-être que parfois il y a un petit égarement, peut-être, je dirais, une petite appréciation d'un point de vue bouddhiste, peut-être là il y a quelque chose à clarifier, ou donc ce sera plus un petit peu un outil de travail pour vous, d'accord. Et puis après, toutes les façons, mes appréciations, c'est ce que je pense, mais elles n'ont pas grande valeur non plus, donc il n'y aura aucune raison d'être traumatisé. Après, je ne sais pas si on me les fait revenir, comment on fait ?
Ouais, c'est soit on te les donne quand tu reviens, au mois de mars, soit autrement, je peux vous donner l'adresse mail de Sixte, et puis vous pouvez l'envoyer directement en pièce jointe.
Moi, je me dis que peut-être si on disait que on se donnait un mois pour faire ça, et par exemple, vous me les faisiez parvenir, par exemple, par email, moi, ça me permettrait de les lire. Et donc, au mois de mars, quand je reviens, de vous les redonner. Donc, il y aurait moins à attendre.
Bon, je te laisse donner ton adresse.
Hein? Qu'est-ce que vous en pensez ?
Ouais. Ou par poste.
Ou aussi par poste-poste. Si vous n'avez pas de email, par poste-poste.
Je ne sais pas comment ça marche, c'est un piège.
Ouais. Par poste-poste, c'est très simple. C'est l'adresse de l'Institut Lamasson Kappa. Donc, dans le mandala, vous ouvrez le mandala, par exemple, vous mettez Sixte, vous mettez peut-être mon nom de famille, quoique à l'institut, il n'y a pas 15 000 Sixte. Hein, donc... mon adresse email, c'est très compliqué aussi, Sixte, S-I-X-T-E, @interfree, I-N-T-E-R-F-R-E-E, .it. Et donc, si vous l'envoyez par poste, c'est vous ouvrez un mandala. Donc, au milieu des pages, généralement, du magazine, il y a toutes les adresses des centres du FPMT. Vous regardez Italie et l'Institut Lamazon Kappa. Via Poggi Berna 15, 56, 040, Pomaia, provincia di Pisa, Italia. Donc pour ce module, ben, plus ou moins on a couvert tout ce qui était suggéré par le FPMT, mis à part un petit peu les émotions perturbatrices et leurs antidotes, mais on verra ça une autre fois, ne vous inquiétez pas. Je vous remercie beaucoup des efforts que vous avez mis, de venir ici, d'écouter tout ce que j'ai dit, donc de votre patience. Je m'excuse parce que très certainement j'ai dit des erreurs, mais j'ai essayé de vous donner ce que je savais du mieux que j'ai pu. Donc excusez-moi pour ces erreurs, pour mes, comment on appelle ça, maladresses. J'espère sincèrement en tout cas que ça a pu vous apporter quelque chose et que ça puisse vous aider à soulager un petit peu les problèmes que vous avez dans votre vie de tous les jours. Donc je vous remercie du fond du cœur. Et puis si, comme mon grand-père disait, Dieu le veut, on se reverra, si vous le souhaitez, au mois de mars, pour parler de comment méditer. D'accord ? Donc le second module. On va dédier les mérites ensemble. Donc tous les mérites qu'on a accumulés au cours de ce week-end, on les dédie pour que tous les êtres, quels qu'ils soient sans la moindre exception, soient libres de leur ignorance, de leur attachement, de leur colère, de leur orgueil, de leur jalousie, de toutes les actions négatives qu'ils puissent commettre, et être libres donc de toutes les souffrances, quelles qu'elles soient, et qu'au contraire, ils n'expérimentent que du bonheur, et surtout le bonheur de la libération et de l'illumination, et qu'ils puissent toujours créer amour, compassion, sagesse, respect, et pratiquer la vertu. Et on récite aussi donc les prières, page 14. Vous voulez les réciter en français ou en tibétain? En français. Cette terre ointe de parfums, jonchée de fleurs, ornée du mont Meru, des quatre continents, du soleil et de la lune, je la visualise comme un champ de Bouddha et l'offre. Puissent tous les êtres jouir de cette terre pure. Je vous envoie ce mandala joyeux, ô maître précieux. Grâce à ces mérites, puissais-je rapidement atteindre la bouddhéité et conduire tous les êtres sans exception à cet état. Puisse l'esprit d'éveil précieux, suprême, naître là où n'est pas né, ne pas dégénérer là où est déjà apparu, mais s'accroître de plus en plus. Dans ce paradis de montagnes neigeuses, vous êtes la source de tout bienfait, de tout bonheur. Ô tout-puissant Tenzin Gyatso Chenrezi, puissiez-vous rester jusqu'à la fin du samsara. Merci beaucoup, et donc très bonne continuation à vous.
Une dernière info, dimanche prochain, il y aura le vénérable Thubten Wangchu, donc Thierry Raka, qui est venu nous enseigner la roue de la vie, les 12 liens interdépendants, et puis les perturbations mentales, qui viendra finir son enseignement, qu'il a commencé l'an dernier. Donc par rapport aux émotions perturbatrices qu'on n'a pas abordées ce week-end, ben, lui pourra donner un complément, ou en tout cas un début de, ou une fin. C'est vrai que c'est par la fin que tout commence. Vu que c'est infini. Et bonne rentrée. c'est bien. Et puis, petite dernière info aussi, c'est que pour le Nyungne, je reviens encore une fois, c'est important vraiment de m'envoyer les inscriptions pour la date qui est mise dessus. Parce qu'il y a une demande de la part de l'hôtel Bossic pour l'organisation, qu'ils aient assez tôt les inscriptions pour s'organiser. Puis vous allez recevoir pour la retraite de Tara au mois d'avril également les inscriptions parce qu'ils veulent 2 mois avant les inscriptions. Donc voilà, c'est des exigences d'attendance, mais on va essayer d'y répondre le mieux possible. Bonne semaine. À jeudi.
Excuse-moi, je n'irai pas jeudi. Hein. Tu m'excuses.
Dommage. Mais il n'y a pas besoin ici, c'est de venir avec moi, il n'y a pas d'obligation. C'est pas... Mais c'est vrai qu'après la pression de l'essence humaine, ce que vous avez ici, ça donne le temps de pratiquer.